À 100 000 à l'heure sur la routance, démaquillé sur une 750cc. On pense à rien, on parle à sa roue d'en avant. Où tu prends la cour au bout, y'a personne qui la prend. Des bras par devant, des bras par derrière. La tête en fibre de verre bleu, verre bleu. À 100 000 à l'heure sur la route en. Hier est au niveau des deux carburateurs. Demain est à fleur de macadam et de caoutchouc. Le beau moment entre à par peur et aller jusqu'au bout. Le feu du vent, le son des deux. Une rose dans le dos. À 100 000 à l'heure sur la route en. Y'a des pensées qui pardonnent pas beaucoup. Comme un peuplier donne la vie immuablement. Comme il la reprend sur la 11 par son immobilité. Des bras par devant, des bras par derrière. La tête ailleurs, il fait beau. On a modéré dans un champ de blé. On l'a dévalé. À 30 000 à l'heure, on s'est trouvé à tout voir de plus près. Pendant que nos chevaux soufflaient. Bonjour le jour, bonjour le ciel, bonjour les yeux fermés. Son bras dans mon cou, ma main sur ses jambes. À 0 000 à l'heure, y'a des pensées qui pardonnent pas beaucoup. Comme un besoin de s'arrêter. Bonjour le blé, bonjour le pain, bonjour le vin de blé. Tous les trois tout nus. Tous les trois ensemble. Et sur le peuplier, thank you.
100 000 à l'heure sur la route 11. Les portes s'ouvrent et les oiseaux s'envolent à 600 000 à l'heure sur la route 11. Le bout du monde est à portée de soi. Le dimanche en plein été, les maisons sont comme des sacs de thé.
La route 11. J'ai un père faire là.
Comme c'est bon cette chanson de l'album Soleil. Alors, on poursuit maintenant avec la portion culturelle. C'est la chronique d'Hugo Dumas. Québécois serre la vis à ses chroniqueurs. Choisissez votre camp. C'est nous ou c'est eux? Plusieurs chroniqueurs vedettes de LCN, de TVA et du Journal de Montréal qui collaborent depuis des années à des stations de radio de Cogeco ou de RNC Media ont récemment dû renoncer à de lucratifs contrats pour se consacrer entièrement à leur employeur Québécois. Pourquoi? Parce que Québécois reluque le marché de la radio et désire regrouper ses stars à la même antenne pour décupler sa force de frappe. Québécois inaugurera même une web radio à l'automne, selon mes informations, mais le but ultime de l'entreprise de Pierre-Carl Péladeau demeure d'obtenir une vraie fréquence sur la bande FM, autant dans le marché de Montréal que dans celui de Québec. Voilà pourquoi Québécois a imposé cette mesure protectionniste limitant le champ d'action de ses têtes d'affiche. La clause d'exclusivité convergente vise notamment Mario Dumont, Richard Martineau, Jonathan Trudeau, Antoine Robitaille et Luc Lavoie. À Montréal, Mario Dumont a été confronté à ce choix, qui n'en est pas vraiment un, soyons honnêtes. Ça ressemble plus à un ordre, Québécois ou Cogeco. Mario Dumont entame ses journées au 98,5 FM de Cogeco depuis plusieurs saisons dans l'émission Puisqu'il faut se lever de Paul Arcand pour ensuite traverser à LCN, une station de la galaxie Québécois. Cette garde partagée n'a pas dérangé ses patrons à LCN jusqu'à ce que l'idée de la web radio de Québécois naisse. Évidemment que Mario Dumont, qui signe des chroniques d'opinion dans le Journal de Montréal, occupera une place importante dans la grille de cette future web radio. Dumont a donc dû abandonner son poste dans la commission Dumont-Curzy. Son remplaçant n'a pas encore été annoncé et le nom de Denis Coderre, qui a été testé en ondes au début du mois de mai, alimente plusieurs scénarios. J'ai posé la question directement à Mario Dumont. Son départ du 98,5 FM est-il lié au fait que Québécois exige de ses vedettes de ne plus sortir du périmètre tracé par l'Empire? Sa réponse, la cause est un peu plus compliquée que ça et elle sera mieux comprise en septembre. Québécois aurait proposé à Mario Dumont de nouveaux défis qui compliqueraient l'organisation de son horaire. En coulisses, la rumeur gronde que Mario Dumont piloterait une émission à une heure de grande écoute à LCN. Le cas de Mario Dumont aurait servi d'exemple pour tous les chroniqueurs montréalais de Québécois Média. Si la consigne d'exclusivité s'applique à Mario Dumont qui trône au sommet de la pyramide, elle s'applique à tous les autres employés sans exception, du journaliste au chroniqueur. Le signal envoyé par Québécois ne pouvait pas être plus clair. D'ailleurs, les reporters du Journal de Montréal qui sortent des scoops ou qui publient de costaudes enquêtes n'obtiennent plus la permission d'en parler à Paul Hood au 98,5 ou sur le plateau de Tout le monde en parle. Tout doit rester dans l'écosystème de Québécois de plus en plus refermé sur lui-même. À Québec, Richard Martineau et Jonathan Trudeau ont annoncé à la direction de Choix Radio X qu'ils ne copiloteront plus leur émission Martineau-Trudeau en septembre. Eux aussi suivent la ligne du parti. Les deux écrivent dans le Journal de Montréal en plus d'apparaître à LCN. Les deux ont décliné nos demandes d'entrevue hier. Le chef du bureau d'enquête à l'Assemblée nationale pour les quotidiens de Québécois, Antoine Robitaille, a également dû trancher entre Cogeco et Québécois. Québécois l'a emporté et Robitaille, un brillant communicateur, disparaîtra de l'émission Drainville PM du 98,5 FM à la rentrée. Antoine Robitaille n'a pas souhaité commenter la situation hier. Il décortique quotidiennement la politique dans l'émission de Bernard Drainville aux côtés d'Alec Castonguay de l'actualité. Bernard Drainville, qui joue sur les deux tableaux, Cogeco et Québécois, se trouve dans une position fort délicate. C'est confirmé qu'il conservera son micro au 98,5 pour la saison 2018-2019, ce qui signifie qu'il perdra, selon toute vraisemblance, sa place à la joute sur les ondes de LCN. Joint hier, Bernard Drainville a refusé de discuter de son avenir. L'histoire de Luc Lavoie, autre débatteur de la joute à LCN, est différente. Il aurait signé son contrat avec le 98,5 avant que la clause d'exclusivité de Québécois ne soit officiellement mise en vigueur. Comme il a refusé de résilier son entente écrite avec Cogeco, Québécois lui a montré la porte. Et si Québécois se débarrasse de Luc Lavoie, un des plus fidèles défenseurs de l'entreprise, même dans ses pires moments de lock-out, personne n'est à l'abri d'un congédiement. Le directeur général du 98.5, Philippe Lapointe, qui a longtemps dirigé TVA, a eu cette réaction hier. « Nous, on n'empêche pas nos gens de faire de la télévision. Tout ça, c'est de la gestion interne de Québécois que je ne commenterai pas. » Lise Ravary, qui collabore au Journal de Montréal et aux émissions radiophoniques d'Isabelle Maréchal et de Paul Hood, affirme ne pas avoir été soumise à la même règle contraignante que ses collègues Dumont, Martineau, Robitaille et Lavoie. « Mais entre vous et moi, qui gagne dans ces guéguerres de pouvoir? Certainement pas le lecteur ou l'auditeur. La libre circulation des chroniqueurs permet la libre circulation des idées, sans compter le rayonnement supplémentaire que cela procure aux différents médias impliqués, non? La convergence a ses raisons que la raison ne connaît pas. » Franco Folie, la renarde sur les traces de Pauline Julien. Cela fait 20 ans que la passionnariat de la chanson québécoise est morte, celle qui a chanté les Gilles Vigneault, Claude Léveillé et Anne Sylvestre, en plus d'écrire ses propres chansons, sera l'objet demain du spectacle d'ouverture des Franco Folie. C'est l'artiste multidisciplinaire Inès Talbi qui en a eu l'idée et qui en assure la mise en scène. La comédienne et chanteuse Inès Talbi a découvert Pauline Julien à l'adolescence chez une amie dont les parents écoutaient beaucoup de musique québécoise. « J'étais attirée par l'intensité de sa voix, l'intensité dans sa voix. Il y avait une liberté, une puissance que je n'entendais pas à la radio. J'ai trouvé ça particulier, ça m'a intriguée, allumée. Si elle a vite aimé l'œuvre de Pauline Julien, c'est plus tard qu'elle a commencé à admirer la femme pour sa fougue, sa théâtralité, son engagement politique. Elle m'a influencée comme artiste et comme personne. Sa persévérance, son cran, sa hargne, elle était sans peur, elle faisait ce qu'elle voulait. » L'artiste de 34 ans avait envie de replonger dans ce répertoire, dans l'histoire de cette femme. C'est important parce que oui, j'ai l'impression qu'on l'avait oubliée. On l'a comme laissée de côté et c'est dommage. Il faut souligner l'importance des femmes artistes qui ont été marquantes, les revisiter, mais sans faire de copier-coller. Pour cela, Inès Talbi a réuni des chanteuses et comédiennes de toutes les générations, de Claude Pelgag à France Castel, en passant par Émilie Bibeau, Fanny Blum et Louise Latraverse. Pas nécessairement dans un désir de fusion ou de rencontre entre les générations, mais pour représenter le Québec de maintenant, dit-elle. J'avais besoin de chacune d'elles pour une raison particulière, mais je tenais aussi à ce que Louise Latraverse et France Castel soient là, pour leur regard réel et réaliste, parce qu'elles l'ont connue. Et ces deux femmes, elles sont clairement beaucoup plus rock que toutes nous autres. Le spectacle sera fait de chansons, des diverses époques de la carrière de l'interprète, mais aussi de lectures de textes tirés de La Renarde et le Malpeigné, recueil de correspondance entre Pauline Julien et son conjoint, le poète et ministre Gérald Godin, un livre qui a permis de découvrir, de redécouvrir le couple mythique ces dernières années.
Mommy, mommy, I love you dearly. Please tell me how in French my friends used to call me. Paul, Lise, Pierre-Jacques ou Louise. Gros Papineau, Gauthier, Fortin, Robichaud, Charbonneau. Mommy, mommy, how come it's not the same, oh mommy, mommy. What happened to my name, oh mommy, tell me why. much too late. Mommy, mommy, I love you dearly. Please tell me where we used to live in this country. Trois-Rivières, Saint-Marc-Grand-Mère, Gaspé, Dolbeau, Berthier, Saint-Paul, Tadoussac, Gatineau. When I was a baby, fais dodo, colle à mon petit frère. Fais dodo, mon petit frère, fais dodo, tu auras du lolo. Mommy, mommy, I remember the song. Oh, mommy, mommy, something seems to be wrong. Oh, mommy, tell me why it's too late. Again, that beautiful story. Un jour, ils partirent de France, bâtir ici quelques villages, une ville, un pays.
Pauline Julien, Mommy.
Sujet libre, Charlie Hebdo transmet sa mémoire post-attentat, c'est dans Le Devoir d'aujourd'hui. Les archives de Paris classeront puis diffuseront des milliers de documents reçus par le magazine après janvier 2015. C'est Séverine Roubi qui signe l'article. Des milliers de dessins, des lettres d'amour, de soutien ou d'insultes. Charlie Hebdo veut donner aux archives de Paris tous les documents reçus après l'attentat de janvier 2015 qui a décimé une partie de la rédaction de l'hebdomadaire satirique. Ce sont tous les courriers qu'on a reçus après. Je pense que ça fait partie de l'histoire et de la mémoire de la ville de Paris, explique Rhys. Donc, Rhys, qui est Rhys? Directeur, oui, et co-détenteur de Charlie Hebdo. Pas Rhys, mais Rhys, R-I-S-S. Le 7 janvier 2015, l'hebdomadaire avait été la cible d'une attaque djihadiste lors de laquelle deux hommes armés avaient exécuté 11 personnes dans ses locaux parisiens. Parmi les victimes, des figures emblématiques comme Cabu, Volinsky, Honoré, Tignoux ou l'ex-directeur de la rédaction, Charb. Cette attaque a marqué le début d'une vague d'attaques djihadistes sans précédent en France. Le 11 janvier 2015, plus de 4 millions de personnes étaient descendues dans les rues des grandes villes de France, suivant le mot d'ordre « Je suis Charlie » en défense de la liberté d'expression. Une fois classés par les archives, ces documents reçus après l'attentat seront accessibles au public, notamment aux chercheurs, à l'instar des milliers de témoignages de soutien déposés sur les sites des attentats du 13 novembre 2015, 130 morts à Paris et à Saint-Denis, et indexés par les archives de Paris. Pour être effectif, ce projet doit encore être validé par le Conseil de Paris lors de sa prochaine réunion en juillet. Depuis plus de 200 ans, les archives de Paris collectent, classent, conservent et communiquent des documents d'intérêt historique concernant Paris ou l'ancien département de la Seine. Pour Guillaume Nahon, directeur des archives de Paris, le Fonds Charlie a sa place aux archives. Il est d'une grande richesse et formera un ensemble très cohérent avec les archives du 13 novembre pour pouvoir comprendre les réactions du public aux attentats de 2015. 35 grands cartons contenant entre 56 000 et 70 000 documents Andorre ait déjà été transféré des locaux du journal à ceux des archives. Ils ont rejoint les quelques 67 kilomètres linéaires de documents que la ville de Paris conserve dans le nord de la capitale. Cela représente environ 12 mètres linéaires de documents. C'est un travail de classement très important. Il faudra faire l'inventaire et l'indexation de chaque pièce, ainsi que leur analyse juridique, souligne Guillaume Nahon. Le fonds sera accessible dans 2 ans car c'est un matériau brut dont il faut vérifier la communicabilité, soit la possibilité légale d'être montré au public, poursuit-il. Il a fallu 1 an et demi aux 2 archivistes volontaires pour classer les documents post-13 novembre. Ce sont les mêmes employés qui s'occuperont du fonds Charlie, dont une partie sera à terme consultable en ligne sur le site des Archives de Paris, archives.paris.fr. Les messages ont été préclassés par les équipes de Charlie Hebdo en 7 grandes catégories. Les courriers à traiter ou à transmettre à leur destinataire, les abonnements, les dons, les dessins d'enfants et d'adolescents, les courriers et dessins d'adultes de soutien à la rédaction, les soutiens par poème et les cahiers de condoléances. Les dessins d'enfants constituent la part la plus importante du fonds, 12 cartons, soit au moins 24 000 documents. Parmi eux, 150 dessins ont été sélectionnés par l'association Dessiner, Créer, Liberté, créée par Charlie Hebdo, SOS Racisme et l'association lycéenne Fiddle pour faire partie de l'exposition Je dessine, qui a tourné dans 18 villes de France et arrive à l'Hôtel de Ville de Paris du 6 au 12 juin. Ces dessins, également publiés dans un livre l'année dernière et donc déjà accessibles au public, seront mis en ligne plus rapidement que le reste du fonds, précise Guillaume Nahon ou Nahon. Plusieurs universitaires et sociologues, notamment ceux qui travaillent sur les réactions post-attentat, souhaitent pouvoir consulter tous les documents et en ont déjà fait la demande aux archives. C'était dommage de ne pas utiliser tous ces courriers. On s'est dit que les universitaires pourraient en tirer parti mieux que nous. Les mettre à disposition et les conserver, ça demande un travail de spécialiste, estime Riss. Un engouement effervescent. Les bouteilles d'eau pétillante ne cessent de se multiplier sur les tablettes. Elles ont d'ailleurs généré des ventes de 59,7 millions en 2016 au Québec, une hausse de 11 % par rapport à l'année précédente. Pourquoi sont-elles si populaires? Quels sont leurs avantages? Comment choisir? Eau gazeuse, c'est dans Pause de la presse. C'est un article signé Nadiel Couteloup. La digestion et les bulles, un mythe. On entend souvent que l'eau gazeuse est bénéfique pour la digestion. Or, non seulement c'est faux, mais elle peut même lui nuire. Quand l'eau pétillante arrive dans l'estomac, ça va faire des bulles et du gaz qui vont sortir en rot, ce qui peut donner l'impression que ça nous aide à digérer, mais dans les faits, rien ne prouve que ça aide et que ça a une efficacité sur la digestion, affirme la chimiste spécialisée en alimentation Anne-Marie Desbiens, auteure du blog La Foodie Scientifique. La nutritionniste Evelyne Debloch ajoute que le liquide combiné aux aliments augmentera la pression dans l'estomac, ce qui augmente les risques de reflux. Il est donc préférable d'en boire entre les repas plutôt que durant. Conclusion, pour les gens qui ont des problèmes gastriques, de reflux, de côlon irritable ou qui ont tendance à avoir des ballonnements, l'eau pétillante n'est pas recommandée, soutient Anne-Marie Desbiens. Pour boire de l'eau pétillante, aide-t-il à maigrir? Pour perdre du poids, il faut manger moins de calories qu'on en dépense et l'eau ne contient pas de calories. Toutefois, boire de l'eau gazeuse au repas augmente la pression dans l'estomac, ce qui peut contribuer à la satiété précoce et par conséquent à une diminution de nos rapports alimentaires caloriques, explique Evelyne Debloch. Ainsi, on pourrait être porté à manger de plus petites portions, surtout que l'eau pétillante exerce une pression plus importante sur l'estomac que l'eau plate. 30,6 % des achats d'eau en bouteille sont de l'eau gazeuse, source MAPAC 2016. Ces eaux sont-elles naturellement gazeuses? Oui et non. Certaines sont naturellement gazéifiées, comme celle des géants Perrier et Badoit, alors que d'autres, comme celle de l'italienne San Pellegrino, propriété de Nestlé, sont artificiellement gazéifiées. Mais même les eaux naturellement pétillantes doivent généralement subir en usine l'ajout d'un gaz naturel ou artificiel. Pardon. Si on ne standardise pas l'eau en ajoutant du gaz, on va se retrouver avec des bouteilles qui auront plus de bulles que d'autres, explique Anne-Marie Desbiens. L'eau minérale de Saint-Justin, en Mauricie, est la seule eau naturellement gazéifiée dans le sol au Québec, mais naturellement gazéifiée ou pas, cela ne change rien au goût, souligne la chimiste. Un genre de Gatorade sans sucre. Ce n'est pas parce qu'une eau est gazeuse qu'elle est minérale. Et au-delà des bulles, ce qui différencie surtout les eaux, ce sont les minéraux qu'elles contiennent. La San Pellegrino n'est pas naturellement gazéifiée, mais elle est naturellement minéralisée. Donc, cette eau contient naturellement beaucoup de sels minéraux qui, eux, changeront le goût de l'eau, poursuit-elle. L'avantage de l'eau minérale, elle est plus riche en électrolytes. C'est un peu un genre de Gatorade sans sucre. Ça peut être intéressant pour les personnes déshydratées qui font du sport. Dans ce cas, c'est plus intéressant que l'eau de source, explique la chimiste. Des eaux gazeuses sont particulièrement riches en calcium, comme la Vichy Célestin, la Badoit, la San Pellegrino et la Perrier. Il faut toutefois en boire une importante quantité pour que l'apport soit significatif. Certaines entreprises gazifient leurs eaux avec du bicarbonate de sodium, d'autres avec du gaz carbonique. Que ce soit du bicarbonate ou du CO2 qu'on rajoute à l'eau, au bout du compte, ça revient au même. On se retrouve avec la même molécule dans l'eau, de l'acide carbonique, sauf qu'en ajoutant du bicarbonate de sodium, on a plus de sel, note Anne-Marie Desbiens. Les eaux de source, comme Esca, sont faibles en sodium, étant peu minéralisées. Faut-il bouder les eaux gazeuses riches en sel? Non, répond la chimiste. Seuls ceux qui doivent limiter leur apport en sodium doivent y porter attention. Comment choisir son eau gazeuse? Sur les tablettes, les eaux gazeuses ne cessent de se multiplier. Est-ce pour répondre à une plus grande demande ou est-ce l'offre grandissante qui attire plus de consommateurs? Difficile à savoir. Ce qui est sûr, c'est que les ventes de boissons gazeuses ont chuté de 0,6% entre 2015 et 2016, alors que celles des eaux gazeuses sont en croissance. Alors voilà, ça fait presque le tour de ce dossier très, très vaste dans la presse. Section pause. Merci Mathieu Tessier au choix musical et à la mise en onde. Ici Hélène Denis qui vous dit un grand merci à vous d'avoir été présent. On se retrouve demain, déjà vendredi. À bientôt!